Bonjour et bienvenue dans le podcast d'Exil Expérience. Je suis Camille et j'ai la chance de prêter ma voix pour aller à la rencontre d'exilés volontaires pour partager au travers de mon micro leurs témoignages. Dans cet épisode avec Éric Julien, nous allons parler de sagesse et j'allais même dire de sagesse ancestrale. Toute l'équipe d'Exil vous souhaite une belle écoute. Bonjour et merci de bien vouloir te prêter à cet exercice de parler derrière un micro.
Avec plaisir.
Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à ceux qui nous écoutent ?
Je suis un être vivant déjà qui respire et qui a un cœur qui bat. Je dis ça avec un sourire parce que souvent quand je demande à des gens de se présenter, personne ne se rappelle qu'avant d'être un être de culture, c'est un être de nature, vivant. Et après cet être vivant, socialement, il fait du conseil, il accompagne les peuples autochtones ou des choses comme ça. Mais j'aime bien me présenter en disant que je suis un explorateur d'interstices. Pour moi, l'interstice, c'est les espaces entre, et ce sont les espaces de plus grande fécondité. Ça peut être entre les maths et le français, ça peut être entre la terre et le ciel, entre les autochtones et les modernes. Voilà, c'est dans ces entre-là. Ça a été quelque chose de très important pour l'évolution des sciences, des techniques ou même des arts. Entre le monde musulman et le monde chrétien, entre, voilà, il y a des petites zones de fécondation et de rencontre que j'adore explorer.
Merci. Et ça fait du lien, du coup, tu es intervenant au sein de l'expérience Exil. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur ce que tu nous as présenté ce matin ?
Qu'est-ce que j'ai présenté ce matin ? En quoi les sociétés ou les cultures qu'on a appelées autochtones, archaïques, primitives, la difficulté qu'on a à les nommer montre qu'on ne sait pas trop quelle place leur laisser ou leur donner. En tout cas, pour l'instant, on ne leur laisse aucune place parce que quand ils empêchent notre développement ou ils limitent notre développement, ben on les déplace ou on les extermine. Voilà, depuis 5 siècles, pour ne pas dire plus, notre rapport à ces sociétés a été violent et toujours violent. Et comment prendre conscience que parce qu'elles se sont, en tout cas celles qui survivent, réfugiés dans des replis du monde, dans des montagnes, au fin fond des dernières forêts sauvages ou dans les déserts, elles gardent une mémoire de vie. Elles gardent même peut-être la mémoire de la vie, alors que nous qui vivons en ville à 85%, avons plus cette mémoire. On a développé autre chose, on a développé des technologies, on a développé des machines, des trucs extraordinaires. Mais on a perdu la mémoire de la vie, ce qui nous fait dire à la question qui sommes-nous, bah, pas qu'on est des êtres vivants, parce qu'on l'a perdu. Et donc de ce dialogue, si on arrivait à le rendre respectueux entre notre modernité, qui s'est auto-désignée société homo sapiens sapiens, sage, civilisée, et ces gens-là qu'on a appelés sauvages et autochtones, mais qui ont un autre rapport au monde, une autre praxis, qui pourrait être justement ce qui nous manque, non pas pour devenir indien ou autochtone, mais pour réveiller cette mémoire qu'on a perdue, remettre de la vie. C'est une phrase de Michel Serres qui dit « Nous sommes le monde, nous fonctionnons comme le monde, mais nous l'avons oublié ». Il faudrait remettre la nature et la vie dans nos actes et nos pensées. Je pense que ces sociétés-là peuvent être de bons inspirateurs pour remettre de la vie dans nos pensées, dans nos actes. Voilà ce que j'ai essayé de partager. Le tout dans la joie et la bonne humeur, parce que nous ne sommes que de passage.
Mmh. Ah oui, alors j'ai eu personnellement la chance d'assister ce matin à la conférence et j'ai bien aimé l'approche qui était de ne pas plaquer finalement ce qu'ils font chez nous avec une forme de réalité que ça ne serait pas possible, mais vraiment de s'en inspirer, comme de prendre l'essence de ce qu'ils font et de voir comment nous, ça peut résonner chez nous.
C'est un peu ça va un peu plus que prendre, ou un peu différemment que prendre l'essence, c'est qu'est-ce que ça réveille chez nous ? Par exemple, leur mode d'utilisation de la parole ou leur mode de rapport au territoire, vous avez raison, ou tu as raison, on ne va pas singer ou copier cet exotisme. Par contre, ça réveille peut-être un universel. Parce que qu'on soit Kogi, ou qu'on soit français, ou qu'on soit belge, ou peu importe, on est vivant. Et ça, ça nous unit. Et donc, nous, on a perdu ce lien, eux, ils l'ont gardé. Donc, de s'inspirer de leur pratique, comment ça va réveiller le vivant en nous, et les cultures qu'on a eues qui pratiquaient ça, mais qui l'ont perdu, ou qu'on a relégué dans les marges de notre histoire. Donc il y a quelque chose de l'ordre du réveil qui peuvent nous aider à faire. D'ailleurs, ils l'ont toujours dit, ils me disent souvent, il ne s'agit pas de nous copier, ce serait ridicule, vous n'êtes pas Kogi. Par contre, si on peut vous aider à réveiller votre mémoire, il y a une personne dans le temps d'échange qui disait, ils nous appellent les petits frères. Ben, c'est exactement pour ça. Frères, parce qu'on fait partie de la même famille des humains ou des vivants, et petits, parce qu'on a perdu cette conscience des connaissances de la nature. Donc ils nous disent, on peut vous aider à la réveiller. Et en la réveillant, on ouvrira un chemin commun. Et si on ouvre un chemin commun, on pourra prendre le meilleur des deux mondes. Et là, on peut inventer quelque chose qui a une petite chance de continuer dans le futur. C'est bien ça, hein ?
Ouais, c'est bien.
Je rigole.
Ça inspire.
Je m'écoute parler sérieusement. C'est quoi ces conneries ?
Non, c'est très inspirant. Et en plus, ce matin, on en parlait un peu en off, mais il y a eu beaucoup d'émotions dans la conférence, même après, des personnes qui ont été très touchées par le message alors universel, en fait, qui a été passé ce matin. S'il y avait deux messages clés, trois messages clés, je ne sais pas combien, mais que ce peuple, en tout cas, que tu as été visité, que tu rencontres, que tu accompagnes, qui t'accompagne aussi dans les deux sens, peuvent nous apprendre, ça serait lesquels ?
Ça va peut-être paraître bizarre. Moi, le premier message que je garde, c'est réveiller le 2. Réveiller le 2, ça veut dire quoi ? Première option, c'est réveiller le 2 vis-à-vis de soi-même. Alors, ça peut être d'aller chercher trois amis précieux et de leur poser la question, est-ce que tu as 5 minutes à me consacrer au téléphone ? Oui, oui, bien sûr. Est-ce que je peux te poser une question ? Oui. Qu'est-ce que tu penses vraiment de moi ? D'oser se mettre en abîme sur là où on est dans la vie et d'oser répondre à cette question. L'autre me renseigne sur ce que je ne sais pas de moi. Voilà. Deuxième question, ça peut être d'aller faire la même chose avec la nature. Trouver un endroit vraiment de nature, un arbre, un endroit qui vous parle, le bord de la mer. Si possible, y aller sans déjeuner ou sans repas, avec un petit temps où le corps va être un peu nettoyé pour être vraiment disponible. Et puis ça paraît étrange, mais faire comme avec vos amis, qu'est-ce que tu as à me dire ? Arbre, pierre, enfin, peu importe, rivière, eau. Et d'écouter. Et alors, on n'est pas habitué à écouter, mais ça peut venir par des sensations physiques. Ça peut venir par des images. Alors certains vont dire, ouais, mais c'est une image, c'est mon ego, c'est mon mental. Peu importe. En fait, la question, c'est de laisser advenir ce qui advient. C'est peut-être par votre ego, peut-être, mais peu importe. Regardez ce que cette image qui est liée à l'espace naturel dans lequel vous êtes vous dit. Et peut-être qu'elle vous dira quelque chose d'intéressant. Souvent, c'est surprenant. Et puis, il faut un peu de pratique. Peut-être qu'au début, c'est peut-être votre ego, votre mental va être agité. Au bout d'un moment, vous allez être vraiment en calme intérieur, au bord de l'eau, avec votre bébé qui est en train d'arriver, et vous écoutez, et vous dites, « Oh, mère, oh, qu'est-ce que tu aurais à me dire là maintenant ?» Et surprise, des phénomènes peuvent se passer, ou pas, mais en tout cas, vous pouvez poser la question à la nature. Voilà, c'est reprendre contact, c'est se relier, on est des êtres de lien, de relation, et on l'a oublié, on est avant tout ça, de la relation, quoi.
Oui, il y a une citation, alors je ne l'aurais pas là en tête, mais de ce matin, qui disait « Nous, on a réussi à faire plein de choses incroyables ». Donc c'était une personne qui vous disait ça, hein, « Super, vous avez réussi à faire des nouvelles technologies et on ne s'arrête plus. Vous avez des belles machines, mais par contre, vous ne pensez plus le monde, quoi.
» Après, ça pose la question de qu'est-ce qu'on a envie d'offrir comme futur à nos enfants. Moi, je me suis toujours demandé, et c'est les coquilles qui m'ont un peu enseigné ça, quels sont les principes qui font de la vie. Et dans les principes qui font de la vie, il y a, si on prend par exemple l'équilibre, l'homéostasie dans le corps humain, c'est un principe fondateur du corps qui va permettre à toutes les fonctions digestives, cardiaques, tout ce qu'on veut, de converger pour maintenir l'équilibre dans le corps. Donc on voit bien que cette fonction d'homéostasie, elle est clé pour maintenir l'équilibre. Ok, on va dans le corps social, dans une famille. Quel est le rêve ou la vision homéostatique qui nous permettrait de converger vers quelque chose ? Donc quel est le récit qu'on peut apporter à nos jeunes, etc. Ce n'est pas un principe philosophique ou d'une méthode de management, c'est un principe de vie. Sans homéostasie, le corps tombe malade. Sans vision partagée, on ne sait pas où on va et chacun se replie sur son territoire. Après, le principe du 2, quand on respire, on a de l'inspire, on a de l'expire. On a la vie intérieure, la vie extérieure. On a moi et l'autre, on a le soleil et la lune, on a dormir, s'agiter, on a dedans, dehors, enfin bref. Le 2 est à l'action partout, partout, partout. Prendre conscience en quoi le 2 m'agit et prendre conscience à quel endroit il n'agit plus parce qu'il est bloqué, bah, c'est déjà une libération extraordinaire. Et voilà, reprendre ces principes, il y en a 9 moi, que j'ai identifiés, et prendre conscience de en quoi ils sont bloqués ou en quoi ils nous agissent à l'insu de notre plein gré, et en quoi on peut reprendre un peu conscience du vivant en nous, en fait. Voilà. Et puis il y a quelque chose derrière qui est, pour moi, le seul objectif à transmettre, à incarner aux jeunes, c'est comme une étoile, c'est la joie simple et tranquille. Je pense que la seule chose qui compte, c'est comment mourir en joie, pour donner la perspective aux plus jeunes que vieillir n'est pas une catastrophe, ça peut être drôle de vieillir. De toute façon, on n'a pas le choix, donc autant l'habiter en joie. Ce qui veut dire que si on est en joie simple et tranquille, on peut être capable de tout accueillir, ça pourrait s'appeler l'amour, hein, et de tout transformer. Et rien ne nous affecte. Moi, j'ai une grande tante, quand j'étais petit, je lui demandais « qu'est-ce que tu as fait pendant la guerre ?» Mais j'ai toujours été en camp de vacances. Puis quand j'ai grandi, ça s'est transformé en Auschwitz. Et si elle m'en a parlé, c'est qu'elle s'en est sortie, sans rentrer dans le détail du comment. Et elle m'a dit « joie, poésie et solidarité ». Joie, poésie et solidarité. Et elle s'en est sortie, sans rentrer dans le détail. C'est ce qu'il a porté pendant son année et demie d'internement, je crois. Donc, comment faire vivre ça en toutes circonstances ? Je prends l'exemple d'Auschwitz exprès, c'est le pire du pire de ce que l'humain peut inventer pour détruire d'autres humains. Joie, poésie et solidarité. Bah voilà, au boulot. Et alors, je crois que ça se décrète. Moi, je pense que la joie et la poésie, ça se décrète. C'est une manière de voir le monde. Dans mes petites affaires, j'ai toujours un nez rouge. Et quand je vois des gens ou des enfants un peu tristes dans le train ou n'importe où, qui sont à un niveau d'enfant traîné par une main d'adulte, qui est un peu en retard et tout, et voilà, ils font la queue, je sais pas où, puis donc les enfants, ils sont en dessous, hein, sont au niveau des valises. Et là, il suffit de se mettre à quatre pattes, mettre le nez rouge et d'aller découvrir tout un univers en dessous, là, des parents, qui finissent par se rendre compte qu'il se passe quelque chose en dessous, donc ils regardent, ils voient un monsieur âgé avec un nez rouge, parfois ils s'inquiètent, mais parfois ils rigolent.
Et qu'est-ce qui fait, alors selon toi et ton expérience, ta qualité d'observation aussi, qu'aujourd'hui on s'est coupé du vivant, on a peut-être perdu cette mémoire-là ou cette façon de faire.
Je dirais on a inversé le sablier. Ça veut dire quoi, on a inversé le sablier? On a laissé le désir prendre trop de place. C'est puissant, le désir. Quand on sait que les sites pornographiques sont ceux qui font le plus de liens de likes, je sais pas quoi, de connexion dans le monde, et le chiffre d'affaires, c'est qu'il y a un désir derrière, une pulsion qui n'est pas maîtrisée, le désir de pouvoir, le désir de domination, le désir d'exister. Il est pas apprivoisé. Donc à partir de là, il détruit tout, parce qu'on se brûle, en fait, c'est Icar, hein, on se brûle en voulant tout posséder, tout désirer, tout le temps, maintenant, tout de suite. Et puis après le désir, on a mis les machines au service de ce désir. Alors, on a démultiplié Internet, la pornographie, mais plein d'autres choses pour maîtriser, pour contrôler, pour aller plus vite, peu importe. Puis après les machines, on a mis les humains qui souffrent parce qu'ils sont en troisième plan après les machines. Et puis tout au fond, derrière, on a mis potentiellement la nature comme une matière première. Voilà. Et quand je dis on s'est trompé, il faut inverser. Pour moi, c'est d'abord le vivant qui donne des principes de vie, puis les humains qui sont traversés par ces principes de vie, puis les machines, parce qu'elles rendent des services. Et le désir, il faut le garder, parce qu'une vie sans désir, ce ne sera pas une vie. Mais un peu comme le film qui s'appelle « L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux », c'était Robert Redford, je crois, qui dit « faut pas dompter le désir, faut pas le tenir dans la main, comme ça, en l'empêchant de vivre, faut l'apprivoiser ». Donc c'est « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les hommes ». C'est « qu'est-ce qui me traverse? Quel est ce désir qui m'habite? Est-ce que je le laisse vagabonder? Est-ce que je l'apprivoise? Est-ce que j'essaie de le canaliser? Est-ce que je dialogue avec lui ?» Un désir débridé à 100% sur la planète, on est mort, et c'est ce qui est en train de se passer. Un désir apprivoisé, qui est à sa juste place, là, c'est plutôt joli.
Et donc le futur, quel pourrait-il être avec ces nouveaux principes? Enfin, ils ne sont pas nouveaux, en fait, c'est un habit de langage. En se rappelant ces principes.
C'est exactement un problème de mémoire. C'est Gaudi qui disait ça, l'architecte catalan. Il n'y a jamais rien de nouveau, il y a juste un retour à l'origine, en l'occurrence à la source, à la nature, et à travers ce retour à la source, relire une situation présente pour la réinventer quelque part. Donc il n'y a pas de... C'est un réveil de la mémoire quelque part. Et la question, c'était quoi?
Le futur.
Je parle de réveil de la mémoire, je ne me rappelle plus. Quel futur?
Ouais.
Bah, y a deux manières de le voir. Pour moi, je ne vois pas de futur. Moi. Je vois comment être là, maintenant, au présent. Si je suis dans une présence juste, le futur en sera le fruit, j'ai envie de dire. Après, on peut aussi dire construisons un futur qui fait rêver pour... nous aider à trouver un chemin plus juste, voilà. Et puis après, il y a une troisième manière de répondre à la question, qui est de se dire que, en fait, le passé est dans le futur. C'est-à-dire que si on pose un acte qui n'est pas juste à un moment présent, donc qui va, en termes temporels, partir derrière nous, mais en termes circulaires, de temps circulaire, ce qui est parti derrière nous, je prends l'exemple d'un paysan qui plante mal à la mauvaise saison, c'est du passé, il a planté, c'est fait, mais en termes de récolte, bah, le passé va tout d'un coup se présenter à lui devant, parce qu'il n'aura pas de récolte. Et ben, y a une manière de dire, si tu arrives à être juste au présent, le futur qui va s'ouvrir à toi, c'est-à-dire le passé qui va venir devant toi, va être juste. Donc c'est penser plutôt temps circulaire et capacité de l'humain à progresser dans ce temps circulaire et sortir du temps linéaire que j'appelle le temps chasse d'eau. C'est-à-dire on fait quelque chose, on appuie sur le bouton, puis on espère que quelqu'un s'en occupera et ça ne nous concerne plus. Si en fait, on construit le futur par les actes qui viennent du passé, donc le présent. Oh, c'est fort ça.
Ouais, c'est très beau. Non mais... En co-responsabilité aussi.
Bah oui, du coup, le temps chasse d'eau, c'est de l'irresponsabilité absolue. Le temps circulaire, oui, c'est du coup, si tu as mal fait les trucs, bah, t'étonnes pas, ça nous revienne dans la figure, ça va nous revenir dans la figure. C'est le réchauffement climatique, c'est tout ce qui se passe. Hein.
Et un des rapports d'étonnement, si je dois le dire comme ça, qui a été fait par ce peuple. C'est dingue comment vous prenez des décisions. Après un codir, je crois, c'était ça l'exemple. Évidemment, je vais le mettre dans ce podcast en tant que femme parce que je trouve ça intéressant de remettre ça au centre. Mais
quand ils sont venus en Europe, en France, ils ont eu plusieurs réactions. La première, c'est quand on est rentré dans un tunnel, ils se sont demandé pourquoi on faisait des trous dans la montagne. Quand on leur répond, c'est pour aller plus vite. Ils sont interpellés, perplexes et ils nous demandent mais jusqu'où vous voulez aller plus vite ? C'est la question du sens. On voit bien, on a des téléphones 4G, 5G, 12G, 13G, mais jusqu'où, enfin, quel est le sens? Pourquoi pas, mais pourquoi? Et on voit bien que sur le sens, on n'est pas très bon. Et si on n'est pas capable d'offrir un récit aux jeunes générations, on crée de la désespérance. Et puis effectivement, on a été reçus dans un codir de personnes qui avaient gentiment aidé à prise en charge du voyage. Et à la sortie de ce codir, que c'était très bien passé, enfin, l'échange s'était bien passé, un cogi me tire par la manche et me dit comment ils font pour prendre des justes décisions. Et je m'étais étonné, mais qu'est-ce qui les empêcherait ? Il me dit, parce qu'il n'y avait que des hommes. Et donc, pour eux, hommes et femmes, sans jugement de valeur, ne sont pas en lien au monde de la même manière, pour une simple raison que les femmes donnent la vie, pas des hommes. On n'a pas les mêmes rapports au monde. Et c'est ni bien ni mal, ce n'est pas hiérarchique, c'est différent. Et donc, si ces deux rapports au monde ne sont pas rapprochés dans la prise de décision, c'est forcément bancal, ça ne peut pas marcher. Donc c'est vrai qu'en sortant du codir, je leur avais renvoyé l'information, ça les avait laissés perplexes, mais c'est pertinent, je trouve. Donc il y avait le sens, et puis il y avait surtout d'y regarder nos villes, et ils disaient, comment faites-vous pour vivre sans nature, au sens plutôt inquiet ? Ça va, vous ne tombez pas trop malade ? C'était plutôt ça, alors.
Il y a eu le rapport au vivant ?
Ça les perturbe, parce qu'ils nous renvoient l'information comme quoi on fait des choses magnifiques techniquement, et ils trouvent ça réellement respectueux. Enfin, ils sont respectueux de ce qu'on fait. Un téléphone, il leur arrive de s'en servir. Certains jeunes cogis apprennent à servir des ordinateurs. Il n'y a pas de rejet de notre modernité. Il y a une inquiétude sur le fait qu'on ne connaît plus le vivant, donc on ne se connaît plus soi-même, donc on ne connaît plus ce dont a besoin le vivant. Et donc, on n'a plus conscience de la limite de notre illusion de puissance. Donc cette illusion de puissance, elle détruit tout, mais... Je ne suis pas le premier à le dire, celui qui l'a beaucoup dit, c'est Lévi-Strauss, qui dit que le regard éloigné, en allant voir ces sociétés-là, nous renvoie notre puissance illimitée qui est destructrice. Donc c'est ça qui nous renvoie, en fait, et que nous avons perdu. C'est la limite de notre finitude. C'est les Zoulous qui disent « si tu avances, tu es mort, si tu recules, tu es mort, si tu restes immobile, tu es mort, tu vas mourir, quoi ». Donc rigole et avance.
Et un des jolis constats aussi, qui pourrait en tout cas être loin des croyances peut-être, c'est qu'il y avait beaucoup de savoir technique, d'expertise sur le fonctionnement du vivant, les terres, les plantations, des choses que nous on se disait, enfin on pourrait se dire c'est nous les sachants parce qu'on a fait des grandes études, etc., etc. Comment eux peuvent savoir autant de choses sans ça? Et en fait, c'est un puits de savoir et de culture.
C'est très troublant parce que vous avez, on va dire un chaman pour faire vite, mais c'est pas tout à fait le bon mot, mais au moins ça évoque quelque chose, qui peut vous parler d'agriculture, de permaculture, d'astrophysique, d'étoiles, de météo, de mathématiques, de géologie, de plaques tectoniques, d'embryogenèse, une seule personne d'abeilles. On a fait une fois une réunion avec des spécialistes scientifiques, dont un était spécialiste des abeilles. Donc il a commencé à raconter ce que lui savait des abeilles. C'était un Français. Et là, les coggies qui étaient présents ce jour-là s'agitent. Et en fait, on découvre qu'ils ont une connaissance des abeilles incroyable et qu'ils connaissent et qu'ils pratiquent toujours, en tout cas, ils travaillent toujours avec la plus vieille abeille du monde qu'on appelle la mélipone ou l'abeille aux yeux bleus qui n'a pas de dard, qui ne pique pas et qui était utilisée par les Indiens mayas pour soigner et pour plein de démarches spirituelles particulières. Évidemment, la société maya a quasiment disparu, même s'il reste des restes, des témoignages. Par contre, les coggies sont toujours là et se servent toujours de cette abeille mélipone comme les Mayas le faisaient il y a plusieurs centaines d'années. Waouh ! Alors ça, c'est fascinant. Et on se rend compte qu'en fait, qu'ils ont gardé en mémoire un rapport au monde, un rapport à ses mystères, un rapport à ses connaissances, j'ai osé le dire, bien plus efficace et large que notre science moderne. Pour une simple raison, la manière dont ils conçoivent l'apprentissage et ce que nous mettons sous le vocable de connaissance n'a rien à voir avec la nôtre. Et rien que dans le mot de vocabulaire qui définit la connaissance chez eux, c'est un monde sur que veut dire apprendre, que veut dire connaître, et donc qu'est-ce que le monde. Rien que si on s'intéressait à enseigner, transmettre et connaître dans les deux mondes, on bouleverserait notre système de représentation. Et c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui, de bouleverser notre système de représentation.
Et si là, les personnes qui nous écoutent se disent « Je me sens inspirée, touchée, je suis convaincue, et en même temps, c'est loin de chez moi, comment je peux faire dans mon quotidien pour me rapprocher et me reconnecter à ce vivant ?»
C'est à la fois simple et compliqué. Tout notre monde moderne est fait pour nous entraîner à l'extérieur de nous. Et on a une bonne cartographie du monde extérieur qu'on retrouve sur nos GPS qui se réduit aujourd'hui à nous trouver le meilleur itinéraire pour éviter les bouchons. La représentation du territoire vivant, c'est ça, se réduit à ça. Mais on a une cartographie intérieure qui est au moins aussi vaste que la cartographie extérieure. Après, chacun prendra le chemin qu'il veut pour explorer cette cartographie intérieure. Certains en prennent la méditation. Mais on peut y arriver par la musique, on peut y arriver par l'art, non pas entendu comme une fin en soi, mais comme une expression d'une sensibilité de la frontière entre le mental et puis une autre dimension, ou la poésie qui nous font flirter avec l'indicible qui est pourtant là, qui nous construit, mais qu'on n'arrive pas complètement à mettre en mots. Et ça, c'est pour moi aussi une démarche spirituelle, au sens comment je conscientise et j'expérimente cet indicible autour de moi par la poésie ou par la musique. Donc on touche, qu'est-ce que c'est que la musique sacrée ? Qu'est-ce que c'est que l'art avec ce grand débat contemporain ou pas contemporain ? Voilà. Mais si elles sont faites, ces démarches-là, dans le sens de nourrir la relation, elles sont pour moi éminemment spirituelles, ce qui ne veut pas dire que c'est sérieux, c'est pas forcément ça. On dit souvent, si tu cherches un guide ou une guide, alignes-en 10 le long d'un mur, enfin, ça fait un peu mur des fusillés, mais bref, regarde-les. Et celui qui sourit et qui rigole, c'est peut-être celui-là qu'il faut prendre, parce qu'il se prend... C'est pas qu'il se prend pas au sérieux, c'est qu'il est détaché un peu de son expertise, ce qui veut pas dire qu'il l'a pas, d'ailleurs. Ouais, voilà.
Cultive la joie, aussi, si je reboucle...
Il n'y a pas d'autre chose que la joie. Pour moi, joie, simplicité, légèreté sont les mamelles du vivre ensemble pour demain. Parce que la joie, c'est contagieux, la légèreté, ça évite de se prendre trop au sérieux et de s'enfermer dans les problèmes. Ça ne veut pas dire les renier, hein, y a des problèmes, mais en légèreté, c'est beaucoup plus facile. Et la simplicité, ça fait redécouvrir l'essentiel, je trouve. Moi, j'aime bien organiser des parcours, il n'y a pas que ça, mais on va dormir dehors sans tente, sans trop de matériel pour nous séparer de la vie. Donc, et ça nous recontacte à notre vulnérabilité de vivant dans la forêt. Et ça renoue des liens sociaux, et bizarrement ça renoue de la joie, parce qu'en renouant des liens pour faire face au froid, à la nuit, à l'inconfort de dormir dehors, ben ça fait revenir de la joie, et ça se termine souvent par chanter autour d'un feu. Vous allez me dire, c'est pas révolutionnaire de chanter autour d'un feu, mais en fait c'est ce qui fait vibrer les gens, quoi. C'est on résonne ensemble, on se remet en vibration ensemble, on est vivant ensemble, et c'est ça qu'on a perdu. Pour travailler avec beaucoup de chefs d'entreprise, quand je leur fais vivre ça, ils me disent « ça m'a remis dans l'axe de la vie » ou « ça m'a redonné goût à la vie ». Je me rendais compte que j'aimais rire, j'aime cette simplicité, mais je suis trop enfermé dans mon costume cravate, un symbole pour dire « trop concentré sur le boulot. Ça n'empêche pas de se concentrer sur le boulot, mais ça lui redonne un souffle et une dimension qui va peut-être permettre de trouver la justesse, y compris pour le business, pas que pour la personne. C'était un chaman qui disait « Depuis combien de temps n'as-tu pas dansé ? Depuis combien de temps n'as-tu pas chanté ? Ou depuis combien de temps n'as-tu pas raconté une histoire ? Et tu t'étonnes d'être malade. » Après, on a monté une école dans la Drôme justement pour retravailler ça. Ben, vous êtes bienvenus. Ça s'appelle l'école pratique de la nature et des savoirs. On fait quelques parcours de reconnexion. Et puis après, mettez un nez rouge dans le métro. Venez voir ce qui se passe. Ou dans le bus, là où vous êtes. Et puis regardez ce qui se passe.
Merci pour ces jolis conseils.
La France va se couvrir de nez rouge.
C'est ça, trop bien. Et alors, c'est une question un peu à part, mais qui est en lien. Quel ressenti ou vécu ou partage as-tu de l'expérience exil ? Il y avait des mots-clés pour toi qui viennent.
Intention. Lorsque j'en perçois, il y a une intention de générosité, de transversalité, de... Alors c'est un mot que j'aime bien, d'espace de fécondation, c'est-à-dire en multipliant les expériences, qu'elles soient sonores, qu'elles soient plus mentales, comme le format de la conférence, on multiplie la richesse. Alors je garde ce mot fécond parce que ça interpelle plusieurs niveaux de sens, mental, corporel, émotionnel, sonore. Après, il y a l'espace, un monastère, un espace incroyable. Et je pense que on ne se relie pas de la même manière dans une salle carrée, climatisée, dans un lieu ouvert qui respire une forme de spiritualité qui a dû et qui est encore un peu là. On la sent, elle coule entre les pierres. Voilà, et puis après, il y a la qualité de générosité de ceux et celles qui sont invités à témoigner. Il y en a certains qui peuvent venir, qui pourraient venir dans d'autres lieux, faire leur intervention et repartir. Là, on sent, même si les gens vont et viennent, qu'il y a une autre forme de générosité. Ok, je fais mon intervention, mais je nourris aussi ce groupe-là. Voilà, plein de petites choses comme celle-là, avec quelque chose qui est très intriguant pour moi. Est-ce qu'on laisse vraiment vivre la phrase d'Hannah Arendt, qui est « Les valeurs sont comme les feuilles mortes, elles ne s'agitent que quand le vent se lève ». C'est-à-dire ce sont des espaces de fécondation, d'enrichissement, de questionnement, de rencontre, mais on reste quand même sur notre trajectoire. Chacun va revenir chez lui, peut-être en ayant grappillé une idée, une petite idée pour transformer quelque chose. Et à quel moment on se dit, là, je crante quelque chose, alors j'y suis pas obligé. Hein. Imaginons que j'ai 100% de bénéfice de quelque chose, d'une situation, et à quel moment je vais me dire, il faut que sur ces 100%, je dégage au moins 10% pour le commun, pour autre chose. Autrement, si dans mon espace-temps de ressources, je n'arrive pas à mettre 10% pour autre chose, pour le commun, en l'occurrence, c'est-à-dire pour la transformation, rien ne bougera jamais. En tout cas, le monde nous fera bouger à l'insu de notre plein gré, ça risque d'être désagréable, le monde vivant. C'est ça la question. Pour des événements comme ça, magnifiques, inspirants, à quel moment on va basculer dans la conscience qu'on pourrait transformer quelque chose hors de la contrainte, donc hors de la phrase de Hannah Arendt. Ça, je ne sais pas. À quel moment l'humain devient vraiment humain, c'est-à-dire en conscience d'agir, je ne sais pas. Ça reste un grand point d'interrogation.
Merci beaucoup et merci doublement parce que bon, tu n'es pas au courant, mais juste après, là, on va co-animer un espace justement pour voir comment on se nourrit de ces belles journées. On apprend plein de choses, on expérimente plein de choses. Et donc c'est intéressant de remettre aussi comment je contribue hors de mon individualité, mais pour le commun. Donc je vais poser cette intention-là dans l'atelier juste après. Donc merci pour cette ouverture-là qui va se concrétiser dans quelques minutes. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Camille, et puis bonne concrétisation. C'était une phrase que Guy qui disait vous parlez beaucoup, mais quand est-ce que vous commencez à agir ?
Eh bien, il n'y a plus qu'à.